Hello. Je ne vais pas rentrer dans l'émotionnel, mais ça fait plaisir d'être là, de revoir pas mal de personnes. J'ai grandi ici, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je ne vais pas rentrer aussi dans la part d'émotionnel, de voir JL en introduction et moi maintenant ici. C'était un peu bizarre, je ne vous cache pas. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'être là. J'espère vous encourager, nous encourager par la parole de Dieu ce matin. Donc j'aimerais commencer par vous poser une question ce matin qu'on entend souvent depuis quelques années maintenant et qui est rabâchée à la télé. C'est pas forcément une chose que je fais moi-même tous les jours, mais la question que je vous posais, c'est: est-ce que vous mangez bien 5 fruits et légumes par jour? C'est vrai que même si je mange plus de légumes depuis le temps que je suis marié, je le fais pas forcément. Alors ce matin, je ne veux pas vous faire culpabiliser sur votre façon de manger, de s'alimenter, mais j'ai quand même trouvé intéressant de me renseigner sur qu'est-ce qu'étaient les conséquences d'une mauvaise alimentation. Et il y a deux phénomènes: c'est quand tu manges trop, tu grossis, quand tu manges pas assez, tu maigris. Et souvent, des conséquences graves peuvent arriver quand cela perdure, comme perdre tes muscles, tu peux perdre tes muscles, tu peux avoir un retard de croissance, tu peux avoir un retard de développement intellectuel, tu es fatigué plus que la normale, tu tombes malade plus facilement, tu n'as pas forcément le moral, et pour les femmes, pire que tout, ta peau sèche, tes cheveux peuvent casser facilement quand tu te coiffes. Donc ce matin, si vous avez compris, je veux parler d'une alimentation qui sera pour nous un carburant pour pratiquer des œuvres bonnes que Dieu attend de nous. Et j'aimerais qu'on puisse regarder dans Tite, au chapitre 2, ce que la parole nous dit à ce sujet. Et j'aimerais te laisser ce matin l'idée de nourris-toi pour pratiquer, nourris-toi de la vérité pour pratiquer des bonnes œuvres. Je vais lire au chapitre 2 de la lettre à Tite. Quant à toi, donc il s'adresse à Tite, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, dans l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Nourris-toi de la vérité pour pratiquer de belles œuvres. Et j'aimerais voir avec vous deux points. Mon premier, ce sera que ce n'est pas une question d'âge. On le verra dans les versets 1 à 10. Et mon deuxième point sera que ce n'est pas en option. Et ça serait les versets 10 à 15. Alors ce n'est pas une question d'âge. Au verset 1, on peut lire « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Paul dit à Tite d'annoncer ce qui est vrai concernant Dieu. Plus précisément, Paul commande fortement de prêcher la vérité, l'enseignement vrai, sans erreur, qui ne trompe pas, qui n'arrondit pas les angles. Et comme vous avez pu le voir au chapitre 1, ça s'oppose clairement à des personnes qui ont été annoncées au chapitre 1, verset 10, les discoureurs creux et trompeurs qui annoncent ce qui vient de l'homme plutôt que ce qui vient de Dieu. Et Paul dénonce cela. Et on peut lire aussi au chapitre 1, verset 16, la conséquence de cet enseignement, ou ce qu'on peut remarquer de cet enseignement. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Donc à l'inverse, la vérité sur Dieu et son œuvre produit un bon effet. Ce bon effet, c'est nous rendre capables de pratiquer des bonnes œuvres. Donc dimanche dernier, David a encouragé à savoir reconnaître le vrai du faux. Il disait la chose suivante, pour bien connaître le faux, pour bien reconnaître le faux, il faut bien connaître le vrai. Lisez, lisez, lisez. La Bible est la vérité de Dieu. La lire, la relire, la méditer, c'est s'en nourrir. Donc la Bible correspond aux 5 fruits et légumes par jour nécessaires pour le chrétien. Et elles doivent être la base de notre alimentation si on veut porter de bonnes œuvres et si on veut pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors nourris-toi de la vérité pour pratiquer de belles œuvres. Au verset 2, le texte nous parle des vieillards. Il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, donc dans l'amour, dans la patience. Au travail, j'ai un chef qui s'appelle Charlie. Il a beaucoup plus d'expérience que moi dans le métier. Et c'est vrai que des fois, il m'impressionne beaucoup dans sa rapidité, dans sa réflexion, comment il travaille. Il est super vif. Pourtant, c'est un ancien. Et l'idée que j'aimerais laisser par rapport à ça, c'est que nos personnes âgées doivent refléter un peu cette image de, même si physiquement, ils sont plus faibles, spirituellement, ils sont vifs. Et ils sont pleins d'énergie. Et on est tous appelés, même plus jeunes, à espérer à être comme cela, et aussi à voir dans l'Église des exemples comme cela. Donc le verset dit simplement que les vieillards doivent aspirer à cette admiration, qu'ils ne font pas d'excès de table, de boisson. Ils ne font pas excès non plus dans leur caractère, dans leur expression de leur caractère. Ça se fait entraîner par des pulsions, des sentiments. Mais vraiment, ils reflètent ce que le fruit de l'esprit peut dire, la maîtrise de soi. Ils reflètent vraiment ce côté-là. Alors, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle, mais quand il est dit vieillard, ça correspond à peu près à l'âge de 50-60 ans. Donc, on est vieillard à 50-60 ans. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que je me retrouve un peu dans cette liste qui a été énoncée ici? Est-ce que je me nourris encore de la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je me dis demain, ça y est, c'est parti, je suis à fond, je serai au top? Ben, je ne t'encourage pas forcément à faire ça, mais à se remettre, comme il a été dit ce matin, au pied de Jésus-Christ, à admirer son œuvre et à dire « Seigneur, sauve-moi ». Et donne-moi la passion encore pour ta vérité, afin d'être cet exemple de bonne œuvre que tu attends de moi. J'aimerais continuer, voir avec vous au verset 3 aussi, des choses qui qualifient les femmes âgées. Il est dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Il y a encore cette idée pour les femmes âgées d'être cet exemple, d'être ce modèle saint. cet exemple de serviteur de Dieu, on sous-entend fortement la maîtrise de soi aussi, du fait de maîtriser sa parole. Finalement, c'est vraiment ce côté d'être aussi un exemple. Et on peut juste noter quelque chose de plus ici, c'est que les personnes âgées, que ce soit hommes ou femmes, sont appelées, il me semble, à transmettre. Alors je résume pour nos personnes âgées. Vous avez entre 50 et 60 ans, et plus. Vous aimez la vérité, vous êtes en pleine santé spirituelle. Quant à la foi, l'amour, la persévérance par rapport à l'espérance, vous recherchez donc, pas un homme ni une femme, vous recherchez donc toute occasion d'être des exemples de serviteurs et à transmettre par votre vécu la vérité sur Dieu. C'est pas mal quand même. Je sais pas si moi j'arriverai à ce top niveau-là un jour, mais c'est vrai qu'on peut espérer en Christ et s'accrocher à sa parole et son esprit pour y arriver. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une motivation. Et c'est vrai que j'ai grandi dans cette église et j'ai vu des personnes âgées refléter ces qualités. Et j'espère vraiment un jour pouvoir y arriver. Maintenant, quelles bonnes œuvres pourraient qualifier les femmes mariées? J'ai eu un grand débat avec ma femme là-dessus. Je lis au verset 4 et 5. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. J'ai pris une version un peu trash, mais c'était fait exprès pour choquer un peu, mais voilà. L'idée que j'aimerais laisser ici, je ne veux pas rentrer dans les débats, mais j'aimerais laisser l'idée que finalement la femme mariée a aussi une mission d'honorer Dieu à travers sa vie de femme, mais à travers au fait qu'elle va s'attacher à son mari, s'attacher à sa famille et à manifester des œuvres pour cela. En fait, la femme va honorer Dieu lorsqu'elle va mettre ses qualités, ses sensibilités au service de son mari, au service de sa famille. Parce que finalement, elle le fait premièrement pour Dieu. Et la femme, je pense qu'elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de sensibilité. En tout cas, ma femme en a pas mal. Et avant d'être mariée, il y a plein de questions que je ne me posais pas. Aujourd'hui, j'ai des réponses aux questions que je ne me pose pas. Je ne suis pas en train de dire que ma femme parle beaucoup, mais plutôt qu'elle a un cadeau précieux et qu'elle me stimule et elle me permet d'aller de l'avant. Premièrement avec Dieu et dans tout ce que je fais. Et je pense que ça peut être un bon reflet de ce que peut être une femme mariée, être un moteur dans sa famille, pour son mari, pour ses enfants. Je pense que c'est à travers la vérité que Dieu nous enseigne dans sa parole, et ben on est appelé à vivre de cette façon. On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, voire plus grande. Alors il y a récemment, j'ai été aussi à un mariage, et je vais vous laisser une idée qui a été partagée. Parce que même si je parle de la femme mariée, je pense qu'on peut aussi être, en tant qu'homme marié, un moteur pour notre famille et pour notre femme. Alors ne prions pas pour que notre conjoint change, parce qu'elle parle trop, fait trop de choses. Mais prions plutôt pour que Dieu me change et me rende meilleur dans le but d'aider mon conjoint à grandir et à avancer, pour pratiquer des belles œuvres selon la parole de Dieu. J'aimerais voir aussi maintenant, verset 6, que ce texte parle des jeunes gens. Donc c'est tous ceux qui ont entre moins 50 ou moins 60. Juste. Voilà, vous m'avez compris. Il est dit au verset 6, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » Alors quand je suis arrivé à ce verset, je me suis posé la question si Paul ne manquait pas d'inspiration. Ce qu'on a eu juste avant, on a eu pas mal de listes. Et là, en fait, il dit une seule chose aux jeunes gens. soyez modérés. Alors pourquoi? Je me dis peut-être qu'il se dit que les jeunes gens ont moins de capacité ou ils ont un peu plus de mal. Mais en fait, en creusant un peu l'idée d'être modéré, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de cultiver dès notre jeunesse pour essayer de parvenir à tout ce qu'on a vu au sujet des personnes âgées. Ce mot signifie faire fléchir nos désirs, nos passions, nos idées. Finalement, je pense que l'idée que Paul veut laisser ici, c'est que le disciple de Jésus doit apprendre à laisser la première place dans sa vie à la vérité, à se soumettre à la vérité. Se préoccuper de ce que Dieu veut et pas de ce que je veux. Et je pense que je ne me trompe pas quand je dis que c'est un travail de tous les jours et qu'il y a encore beaucoup de taf pour moi, en tout cas, à essayer de me soumettre à la vérité et d'être cette personne modérée. On peut lire en Romains 8, 5. En effet, ce qui est conforme à la nature propre se préoccupe des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui sont conformes à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, c'est vraiment du taf pour au moins 50 ans de futur. Jeunes gens, soyez modérés. Alors, on peut voir aussi au verset 7 et 8 que Paul s'adresse aussi aux responsables, entre guillemets, je dis responsables parce qu'il s'adresse à Tite, mais sa mission a été de nommer des anciens et dans chaque ville pour cadrer tout ça, et en fait, il a quand même une position de responsable. Versets 7 et 8, il dit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confondu, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Alors ici, les responsables sont clairement appelés à être des modèles, plus que jamais, en parole et en acte. Mais pourquoi eux? Parce que finalement, la Bible, elle enseigne que tout le monde, tous les enfants de Dieu, doivent être porte-parole de la vérité, en parole et en acte. Alors, c'est peut-être simplement une question de sagesse, du fait que les responsables sont peut-être plus regardés, plus vus, pas forcément à raison. Alors Paul, il me semble, veut les rendre sensibles au fait d'être particulièrement attachés à la vérité, pour laisser aucunement prise à quelques mensonges ou quelques accusations qui pourraient laisser entrer dans l'Église et salir, entrer le mensonge et salir la vérité. Alors pour cela, il y a un moyen, c'est pas les gants de boxe, c'est pas non plus un discours atomique pour écraser les gens qui nous accusent, mais on voit là, entre guillemets, une parole de sagesse, mais on utilise l'amour de la vérité qui produira des paroles et des actes inattaquables. J'espère pas trop vous assommer par tout ça. C'est sûr que quand on s'attache à des enseignements comme ça, on se sent très petit. Mais bon, je dis ça dans le but de nous motiver, pas pour nous écraser. Se nourrir de la vérité pour pratiquer de belles œuvres n'est pas une question d'âge, et je pense que c'est pas non plus une question de rôle, même si les responsables ont une demande particulière d'être un modèle, d'être des modèles. 1 Corinthiens 4, verset 5, dit « C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui convient. » Ce verset, je l'utilise juste pour faire une parenthèse sur l'Église. Pour dire que finalement l'Église n'est pas un endroit où on juge impunément, où on pointe du doigt. Mais je pense qu'au contraire, l'Église doit être un environnement qui soit propice au développement de la vérité. Et que ça soit aussi un endroit où chacun est poussé par la vérité à pratiquer des belles œuvres pour Dieu. L'Église a comme but, et Pierre le dit très bien dans sa première lettre au chapitre 2, a pour but de glorifier et d'honorer Dieu. Pierre, quand il parle de l'Église comme étant un édifice, un saint sacerdoce, des personnes consacrées à Dieu, qui apportent des louanges et des sacrifices qui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà le but de l'Église, faire grandir cette vérité pour nous pousser à la louange et à produire des belles œuvres pour notre Seigneur. Et cela, on peut se dire que ça ne concerne que l'Église, ou que quand on est ensemble pendant un moment de culte. Mais je pense que ici, dans ce texte, on peut aller encore plus loin avec les versets 9 et 10, parce qu'il parle, Paul parle d'une relation entre un esclave et un maître, et à cette époque-là, ben, être esclave, c'est comme si aujourd'hui on était... Attention. Non, simplement, une fonction, c'était un job, quoi. Et je pense qu'on peut aller plus loin, et à la lumière de l'évangile dans Matthieu, où il parle de briller, où une ville est située en haut, et elle est là pour briller. De même, l'Église, dans le monde professionnel, en dehors de l'Église, on est tous appelés à briller, chacun, pour rendre témoignage à Dieu. Et ça, on le fait comment? Par exemple, dans notre travail, on peut le faire en étant intègre, du mieux possible, en faisant notre travail avec bonne humeur, joie, en montrant aux personnes qu'on est content d'être là, en se soumettant au patron, au responsable, ouais, en étant un bon modèle déjà dans le travail. Ça me fait penser que ça fait plusieurs fois que je rencontre des personnes en bas de mon chantier qui demandent l'aumône et que je passe souvent avec mes collègues à côté et je pense qu'ils doivent se dire que je suis pas totalement normal parce que j'aime bien m'arrêter peut-être une ou deux minutes et discuter avec elles juste pour savoir ce qu'elles ont besoin et leur donner une petite parole. Ça s'est répété, il y a eu 2-3 occasions récemment. Et c'est vrai que j'ai David, un de mes collègues de boulot, qui me dit « Mais t'es trop bête, tu te fais avoir, machin et tout. » Mais à côté de ça, il me regarde avec des yeux comme ça. Je pense qu'on peut avoir des occasions comme ça, il faut les saisir. « Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » Alors nourris-toi de la vérité pour produire, pour pratiquer de belles œuvres. Ce n'est pas une question d'âge, et j'aimerais voir aussi maintenant que ce n'est pas une option. Et c'est dans les versets 11 à 15. J'aimerais juste relire ces versets. Versets 11 à 15. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et en convoitise de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener à Lyon, mais j'aime bien regarder les bâtiments à Lyon quand je me promène. Et un défaut professionnel, j'aime bien regarder aussi les toitures. Et vous remarquerez que certaines toitures ont des tuiles qui brillent, qui scintillent. Et on peut voir même des monuments qui sont habillés de feuilles d'or sur certaines parties des toitures. C'est très joli. Et un des buts, comme on a vu, c'était de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, c'est ce qu'il dit au verset 10. Ça, c'est le but de nos belles œuvres. Faire honorer la doctrine de Dieu. Et ce mot « honorer » signifie « orner », »,« couronner ». La saine doctrine. Nous sommes appelés à orner, couronner la saine doctrine, la vérité. Et finalement, les versets 11 à 14 nous disent ce que c'est la saine doctrine. La saine doctrine, c'est simplement l'enseignement qui a été manifesté à la croix par Jésus-Christ, l'enseignement qui consiste à dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous purifier, pour nous racheter. Donc nous sommes appelés à honorer
ce sacrifice de Jésus-Christ par nos vies. Je me suis posé des questions, je suis marié. Sommes-nous aujourd'hui, j'ai bien aimé ta question ce matin, tu disais que, est-ce qu'au début de ma conversion j'étais tout feu tout flamme et aujourd'hui est-ce que je le suis encore tout feu tout flamme? Sommes-nous dans une dynamique où nous honorons la grâce que Dieu nous a faite par Jésus-Christ? Est-ce que j'ai vraiment conscience de la pleine œuvre de Jésus-Christ sur la croix, manifestée pour moi, pour me sauver, pour me racheter? Ou est-ce que je peux me dire, c'est bon, j'ai le ticket pour aller au paradis, c'est bon, j'ai fait mon taf? Au contraire, est-ce que je veux admirer encore aujourd'hui Jésus-Christ comme sauveur, comme maître? Est-ce que je veux pleinement manifester ma reconnaissance en retour à mon sauveur? Alors en essayant de pratiquer ce qu'il me demande, au verset 14, il est dit « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Le don de Jésus-Christ pour ma vie n'est pas simplement là pour me donner un ticket pour aller au paradis. Il m'a racheté et je lui appartiens. Je lui appartiens. Ma vie lui appartient. Il m'a acheté. En retour, j'aimerais apprendre à l'aimer, à le servir avec passion, en réalisant par lui et pour lui des œuvres qui le glorifient. Voilà ce que j'ai envie. Et vous? Le dernier verset de notre passage, au verset 15, dit « Dis ces choses, exhorte, et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » La valeur du sacrifice de Jésus-Christ est énorme. Et Christ doit être celui, finalement, qui nous exhorte. C'est la parole de Dieu qui nous reprend. Et c'est cette parole aussi qui doit avoir une pleine autorité dans nos vies. Christ doit avoir une pleine autorité sur ma vie. Je lui appartiens. Alors si je méprise cet enseignement, c'est pas un homme, parce que là il parle de Tite, mais c'est pas un homme qu'on méprise, mais c'est clairement et purement Dieu qu'on méprise et l'enseignement qu'il nous donne. Alors quand on va acheter une voiture neuve, par exemple, on peut choisir plusieurs options. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter, mais on a assez de pubs pour... Donc on peut choisir différentes options. Clim, radio, GPS, roues interchangeables, etc. Mais avec Dieu, il n'y a pas le choix des options, ça n'existe pas. D'office, on a le droit à la voiture, top la classe, toute option, tout est fourni avec. Alors pour faire fonctionner cette voiture, avec toutes les options, il nous faut quoi? On a besoin premièrement d'une notice, la parole de Dieu, la vérité. On a besoin aussi d'une clé pour démarrer, un amour sans cesse renouvelé par le salut offert par Christ. On a besoin aussi d'un carburant, le Saint-Esprit agissant dans nos vies. Et quand on a ces ingrédients, alors la voiture elle peut rouler et elle passe pas inaperçue. Parce qu'elle est flambant neuve, toute brillante, gentalue et tout. Et cela manifeste les œuvres, manifeste des œuvres qui manifestent la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu en nous. Je conclue. Vous avez bien compris que je pousse à avoir une démarche active de la connaissance de la vérité de Dieu. Et je espère vous avoir donné envie de manger 5 fruits et légumes par jour. Se nourrir de la vérité est indispensable pour pratiquer des bonnes œuvres qui soient acceptables par Dieu. Il n'y a pas d'âge, on est tous concernés. Et ce n'est pas aussi une option, parce que cela découle pleinement et est fondé sur le sacrifice même de Jésus-Christ. J'aimerais cependant rajouter juste quelque chose, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais quand même, pouvons-nous nous contenter d'une position statique dans notre foi par rapport à cette valeur inestimable du sacrifice de Jésus-Christ pour ma vie? Comment ne pas honorer Dieu, orné, en retour de son sacrifice? Nos œuvres, elles commencent lorsque j'accepte de mourir à moi-même pour laisser toute la place à Dieu. Je vous laisse un dernier verset. C'est une prière de Paul pour les Colossiens. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse, un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et lui plaire à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Amen. J'aimerais juste prier. Père, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci pour Jésus-Christ, mon Sauveur, notre Maître. Et Seigneur, en retour de cette œuvre magnifique, on veut aussi te glorifier par nos vies. On veut rentrer dans une marche qui te glorifie en acceptant de nous soumettre pleinement à toi et à ta vérité. Seigneur, apprends-nous par ta parole et avec l'aide de ton esprit à soumettre nos cœurs et notre intelligence à ce qui est bon pour toi. Seigneur, c'est vrai qu'on vit juste un temps sur terre, mais ce temps, on veut faire qu'il t'honore. Et on a hâte aussi que tu reviennes, et on aimerait être des personnes qui soient trouvées, entre guillemets, dignes de pouvoir venir à ta rencontre. Aide-nous, parle encore à nos cœurs aujourd'hui, parle encore à nos cœurs cette semaine, nourris-nous de ta parole qui est nécessaire pour grandir et pour produire du bon fruit. On veut t'honorer, te louer, sois béni encore ce matin. Amen.